C'est un même esprit qui nous anime. Pierre disait comment faire pour mettre l'autre au-dessus de soi-même, de considérer les intérêts des autres plutôt que ses propres intérêts. Eh bien, c'est de ne plus être le centre de sa vie, de sa propre vie. Et c'est de mettre Jésus au centre de notre vie. Si nous mettons Jésus au centre de notre vie, alors il y a de la place pour les autres. C'est comme ça. J'ai choisi de vous partager un texte qu'on trouve dans Jean au chapitre 14. Et on va lire les 14 premiers versets de ce chapitre. C'est Jésus qui parle à ses disciples et cela les fait réagir. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jésus vient d'annoncer à ses disciples, au chapitre 13, que l'un d'entre eux allait le livrer et que Pierre le renierait trois fois. Alors Jésus commence par dire « Que votre cœur ne se trouble pas ou ne soyez pas bouleversés de ce que je viens de vous dire. Je vais partir, c'est vrai, je vais partir. » Et les disciples devaient paraître bien angoissés quand Jésus les regardait et ils voyaient leurs yeux peut-être plein de questionnements et se dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait 3 ans qu'on est là à le suivre et on ne comprend plus ce qui se passe. » Il y a une hostilité générale, c'est le moment où il y a un petit peu un déclin dans la popularité de Jésus. Beaucoup de gens le critiquent parce que ses paroles deviennent plus précises sur sa mission. Et cette angoisse, pour certains, se transformait en horrible déception. Certains ont dit « Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël », sous-entendu des Romains. Hein, c'est les disciples d'Emmaüs qui dirent ça à Jésus après sa résurrection, quelques jours plus tard. Et Richard nous en a parlé. Et les apôtres partager cette espérance politique. Et leur chef va être condamné, exécuté, et pour eux, finit ses illusions. Et nous aussi, dans notre vie, on peut être découragé. Découragé parce qu'on avait prévu des choses, on avait pensé que notre vie serait différente. On peut être découragé par une maladie qui nous tient et qui persévère. On peut être découragé par la vieillesse. On ne pensait pas que ça se passerait comme ça, mais c'est dur. C'est dur. Par des problèmes de couple, par des inquiétudes pour les choix de nos enfants, pour des problèmes financiers. On peut se demander, ça fait tellement de temps que je prie pour ça, qu'est-ce que fait Dieu avec cela? Est-ce qu'il sait ce que je vis? Parce que s'il savait ce que je vivrais, il ferait quelque chose. Il ferait quelque chose. Et puis toute cette misère qui nous entoure, quand on regarde les actualités, hein, les migrants qui se noient quotidiennement, et ça revient encore par dizaines, voire par centaines en mer Méditerranée. Et puis ces famines au nord du Nigeria, au Soudan, en Somalie. Et puis les guerres, le terrorisme, le fanatisme religieux. Et puis il y a Daesh, il y a Boko Haram, Al-Qaïda qui nous menacent. Est-ce que Dieu va faire quelque chose pour cela? Eh bien, la réponse, elle va se trouver dans notre texte aujourd'hui. C'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles et à rester sur Jean 14. Parce qu'on va regarder ensemble ce que Jésus veut nous enseigner à travers ce texte. Jésus va essayer de déplacer l'espérance des disciples. Et peut-être déplacer ce matin notre espérance à nous. On espère dans des choses matérielles qu'on va voir, des choses, même une restauration physique. On peut espérer cela, mais Jésus va essayer de déplacer cette espérance-là vers autre chose. Il ne va pas combler l'attente des disciples qu'ils avaient dans les miracles que fait Jésus et qui ont fait naître une certaine espérance dans les disciples. Il ne va pas prendre la tête d'un mouvement national contre l'occupant. Au contraire, Jésus n'a cessé de prêcher la non-violence. Il ne va pas prôner l'abolition de l'esclavage, ni même la liberté des femmes qui sont opprimées de génération en génération et encore aujourd'hui. Mais il va prôner la libération qui se situe sur un autre plan. Et s'il ne va pas combler nos attentes terrestres ou visuelles ou les attentes du peuple, il est pourtant celui qu'on attendait. Il reste le Messie, mais Messie de quoi alors ? Dans notre vie. Comment Jésus va restaurer la confiance de ses disciples dans leur cœur troublé? Comment Jésus peut restaurer notre confiance ce matin? Et il commence par faire appel, la première chose, à leur foi. C'est l'attitude fondamentale du peuple de Dieu, la foi. Quand on fait référence au peuple d'Israël, c'est la foi d'Abraham. Et Jésus, face à la loi, il revient toujours à la foi d'Abraham. Et l'espérance ne peut s'appuyer que sur cette foi-là. Et Jésus revient à plusieurs reprises dans ce texte sur le mot « croire ». Que votre cœur ne se trouble pas, puisque vous croyez en Dieu. Et l'idée, c'est celle de la confiance qui existait entre Dieu et l'homme dans le jardin. Une confiance inébranlable. On ne parlait pas de foi à ce moment-là. C'était juste une confiance, une présence. Dieu est là, il est le Créateur, et nous sommes ses créatures. Et il y avait un lien qui n'avait pas besoin de foi, qui s'appelait une réelle confiance. Et c'est Satan qui vient briser cette confiance entre l'homme et Dieu dans le jardin. L'homme perd confiance en Dieu. Il doute. Et Satan l'a fait d'une manière subtile, pour nous faire perdre l'amour. Car sans confiance, il n'y a pas d'amour. Dans un couple, sans confiance, il n'y a pas d'amour. On se base sur l'amour. L'amour se base sur cette confiance. Pour aimer Dieu, il faut d'abord croire qu'il est digne de notre amour. Alors, c'est quand même quelque chose de dire ça, que Dieu soit digne de notre amour. Mais c'est comme ça que ça se passe. Dieu cherche dans toutes les Écritures à dire « voilà comment je suis, un Dieu qui vous aime, je veux votre bien ». Et toutes les Écritures transpirent de cela. « Donnez-moi votre amour, parce que moi je vous aime ». Je dis toujours que la première mission des parents, c'est de faire comprendre à leurs enfants qu'ils les aiment, que les parents aiment leurs enfants. C'est la première chose. Pour qu'il y ait une réelle confiance. il y a quelque chose, une base qui soit là. Seulement, une chose est de croire en Dieu, cela c'est acquis pour les disciples, mais c'est autre chose de croire en Jésus. Au moment précisément où il se présente comme quelqu'un qui va mourir, qui va partir. On ne peut pas, ils ne peuvent pas croire en ça. Mais pour accéder à Jésus, il nous faut la même foi qu'on a en Dieu. Il faut, pour les contemporains de Jésus, avoir cette même foi qu'ils ont en Dieu et qu'ils puissent mettre en Jésus. Et pour ça, c'est un saut formidable qu'ils doivent faire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les Juifs étaient persécutés, des soldats allemands ont forcé la porte d'une maison. Et c'était la nuit. Et un père et son fils se trouvaient au premier étage. Le père ouvre la fenêtre, il saute dans la nuit. Et puis son fils est là dans la lumière de la fenêtre et il crie à son fils « Saute !» Et son fils dit « J'ai peur, papa, je ne te vois pas. » Il lui dit « Saute dans mes bras et je vais t'attraper. » Et c'est ce saut-là qui nous est demandé, c'est ce saut-là que Jésus demande à ses disciples. À l'écoute de ma parole, à l'écoute de la parole, sautez, sautez. Elle est vraie cette parole. Laissez-vous faire. Il est là, Jésus-Christ est là. Il va vous prendre dans ses bras. Le fils ne pouvait voir le père dans le noir. Il hésitait à faire le pas. Il n'entendait que sa parole. Et parfois, c'est tout ce que nous entendons la plupart du temps de notre Dieu, sa parole. Et il nous faut sauter, faire ce pas. Et toute la révélation de la parole de Dieu nous invite à faire ce pas, à sauter de cette fenêtre pour se jeter dans les bras du Père. C'est le fils prodigue qui revient dans les bras de son Père, que nous rappelait Pierre-André. Et il en est de même pour les disciples de Jésus. Il faut qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme le Seigneur. Et il faut que le Seigneur leur fasse percevoir qu'il y a une unité profonde entre le Père et Jésus-Christ. Et c'est la deuxième ligne et la deuxième force de ce passage. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et cette phrase-là, il va la répéter deux fois. Et il va répéter ensuite, le Père demeure en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il répond à cette question de Philippe. Mais montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cette dernière phrase va résonner tout particulièrement lorsqu'on sait ce qui est arrivé quelques heures plus tard à Jésus. Regardez-moi, regardez-moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et qu'est-ce qu'on voit quelques heures plus tard ? Jésus en haut de la croix, crucifié, pardonnant toute l'humanité, disant « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». On n'a pas le temps de voir ce matin toutes les profondeurs de ce texte, des mots qui sont dans ce texte, mais on va s'attarder juste sur l'expression « je suis ». Pour un juif, quand Jésus dit « je suis », il ne peut pas ne pas penser à Dieu. C'est comme ça qu'il se « je suis celui qui est, je suis ». Et quand Jésus dit « je suis la vérité et la vie », c'est qu'il s'identifie lui-même à Dieu. Et en même temps, Jésus et Dieu sont bien distincts, puisque Jésus dit « je suis le chemin ». Ce n'est pas le Père le chemin, c'est Jésus le chemin. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène au Père. Nul ne vient au Père que par moi. » Ou, dans une autre traduction, on a « personne ne va vers le Père sans passer par moi », une autre manière de dire « je suis le chemin », Jésus dit aussi, il dira aussi « je suis la porte » en Jean chapitre 10, dans sa parabole du bon berger, « je suis le bon berger, je suis la porte par laquelle entrent les brebis ». Et quand Jésus dit à ses disciples « je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », ce n'est pas une mise en garde. Et quelquefois on prend ce verset comme pour dire « nul ne vient au Père que par Jésus-Christ ». Ce n'est pas une condamnation de toute l'humanité qui ne vient pas à Jésus-Christ, au Père par Jésus-Christ. Non. Quand Jésus dit ça, il dit « Ce n'est que par moi qu'on vient au Père. » C'est comme ça qu'on vient au Père. Et il s'agit d'un mystère de notre solidarité avec Jésus-Christ. C'est vraiment, et là, quelque chose qui est parfois difficile à comprendre, l'Église, le corps que nous formons, qui est le corps de Jésus-Christ. On parlait de l'unité ce matin, c'est vraiment de l'unité de ce corps. Si la main, elle fait ce qu'elle veut de son côté, on ne pourra jamais manger avec sa main droite. Si elle se met à trembler, comme dans la maladie de Parkinson, ça devient très compliqué de manger. Si on fait les choses par habitude, sans les comprendre, ça, c'est les mouvements de la maladie de Parkinson. Ils ne sont pas appropriés pour manger. La tradition et faire des choses par habitude, ça ne va pas nous aider à vivre ce corps convenablement. Jésus dit, c'est par moi qu'on arrive au Père. C'est en vivant ma vie qu'on arrive au Père. Augustin d'Hippone, saint Augustin, il dira, c'est le Christ total, pas seulement la tête, mais aussi le corps. Et c'est cela, nul ne vient au Père que par moi. C'est, on rentre dans le corps de Jésus-Christ et on va vers le Père. Autrement, si vous êtes capable d'aller au Père, ce n'est possible que par moi. Je suis le chemin. Mais quel chemin est Jésus? Et c'est la question que pose Thomas. Il dit, montre-nous le chemin, montre-nous le chemin. Et quel chemin Jésus nous montre-t-il? Et c'est la première lettre de Jean qui va nous éclairer sur ce passage. Parce que il y a une affirmation dans la première lettre de Jean au chapitre 4 qui est d'une ouverture extrême pour toute personne de bonne volonté et sans critère de foi. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour. Jésus dit cela dans un contexte d'une église chrétienne extrêmement minoritaire dans un monde un peu hostile, qui était au carrefour de toutes les civilisations à cette époque. C'était le centre du monde, un petit peu, de l'époque. Et ce passage nous dit que toute personne qui aime est profondément en communion avec Dieu. Quelles que soient ses idées, sa religion, sa théologie, sa philosophie, quiconque aime est de Dieu. Et cette théologie, ce n'est pas une invention de Jean. Elle est massivement présente dans la parole de Dieu. Les actes de Jésus disent que Dieu aime, bénit et fait du bien sans se lasser, et même pour ses ennemis. Et il nous encourage à faire de même en Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Que Dieu est comme un berger qui part à la recherche de la brebis qui s'est perdue. Elle s'est perdue parce qu'elle s'est écartée du troupeau. Elle a désobéi. Elle est partie dans son coin. Luc chapitre 15, versets 4 et 5. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que ce passage qui est si ouvert aux non-chrétiens est introduit par un message qui est des plus fermés et menaçants qui soient. Au verset 1 à 3, dans 1 Jean, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, cet Esprit est de Dieu. » Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus, cet esprit n'est pas de Dieu, mais c'est celui de l'Antéchrist. Jean, pour le coup, est donc tout aussi clair, net, précis, dans cet exclusivisme religieux en faveur des chrétiens. Et il l'est aussi dans son ouverture extrême aux non-chrétiens. Ça, c'est un message paradoxal. Et Jean, c'est pas un imbécile quand il écrit ça. C'est pas par erreur, parce qu'il va récidiver un peu plus loin en mettant le libéralisme et le fondamentalisme dans la même phrase. Il va dire « Celui qui déclarera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il n'y a pas d'autre moyen que Jésus-Christ pour aimer. Et ceux qui aiment, qu'ils le sachent ou non, ils aiment par Jésus-Christ. C'est comme ça. On a encore ce double message, apparemment ici, d'ouverture et d'exclusivisme. Et cette phrase est reprise deux fois dans le même schéma, ici dans notre évangile de Jean. Dieu demeure en lui, ça c'est pour le lien entre Dieu et Jésus, mais c'est ce même lien qui est entre Jésus et nous. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. De la même manière, Jésus dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Et c'est en cela qu'il est, que Jésus est ce nouvel Adam dont parle l'apôtre Paul. La nouvelle création. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Un nouvel Adam, c'est une promesse de vie véritable. C'est une restauration complète de la confiance perdue dans le jardin d'Éden. Et il n'y a aucun auteur biblique qui prend à la légère cela. Aucun. C'est une promesse de vie véritable. Et de fait, quand Jean fait ce rapprochement entre ces deux formules, il pose une équivalence entre confesser Jésus-Christ publiquement et habiter cette façon d'être de Jésus-Christ, qui est l'amour. Vous savez, vous connaissez Ali Baba ? D'accord. Il est devant la caverne, il est devant la caverne à trésors. Et c'est quoi le message pour que la caverne s'ouvre ? Sésame, ouvre-toi. Mais avec Jésus, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas une formule magique. Jésus, et puis la caverne s'ouvre, ça y est, tout est... Non, il faut s'approprier la vie de Jésus, s'approprier cet amour de Jésus-Christ. C'est ça, la confession du nom de Jésus-Christ. C'est la confession de sa propre vie. Et ce rapprochement, dans la pensée que fait Jean dans sa pensée, c'est cette question qui est dans tous les évangiles, tout le temps. C'est pas être de la bouche, mais que tout ton être, et c'est ce que Pierre nous enseignait ce matin, que tout ton être, toute ta force, que toutes nos pensées, que notre cœur entier soit tourné vers Dieu par Jésus-Christ. Parce que c'était la façon d'être de Jésus. Jésus, c'était pas quelqu'un qui est condamné. Quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », c'est pas une condamnation sur les autres religions. Non, c'est une inclusion. Venez à moi. Venez. Vous voulez venir au Père ? Venez à moi. Passez par moi, passez par ma vie, passez par mon exemple d'amour. Jean 14, 8, 9. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Il n'y a qu'une seule manière d'avancer vers Jésus-Christ, c'est de le contempler, de contempler sa vie. Et comment on contemple sa vie ? On le contemple en sa parole. Si on ne prend pas sa parole, si on ne lit pas les évangiles, si on ne médite pas cette parole, on ne va pas pouvoir avancer dans les pas de Jésus-Christ. Si on ne lui parle pas dans la prière, si on ne communique pas avec notre Père, on ne pourra pas avancer convenablement dans les pas de Jésus-Christ. C'est essentiel, essentiel. Ce que dit Jean ici, c'est qu'indépendamment aussi de la religion, parce qu'on ne suit pas une religion, hein, et de la religion des uns et des autres, parce que les religions, ça ne nous intéresse pas, on veut être avec notre Seigneur et avec Dieu, c'est une vie qu'on veut. Et donc cette vie, c'est aimer. Aimer. Et c'est le contraire de l'indifférence. C'est le contraire du mépris. C'est le contraire de la rancœur. C'est le contraire de la logique du donnant-donnant. C'est le contraire de la méchanceté. C'est le contraire du rejet. C'est le contraire de la mort. C'est l'anti... Tout ça, c'est l'anti-façon d'être de Dieu. Parce que c'est quoi être de Dieu ? Ben, c'est donner sa vie pour ses amis. C'est considérer l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes, on l'a entendu. Parce que Jésus nous prouve son amour en mourant sur la croix pour nous. Quand Christ manifeste l'amour de Dieu, la question pour nous, c'est pas comment faire pour entrer dans le paradis ou comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu, parce que c'est le royaume de Dieu qui s'approche de nous. C'est pas nous qui nous approchons du royaume de Dieu. Et il s'est approché de nous. La question est de savoir comment nous laisser transformer par ce royaume qui s'approche de nous. Comment nous laisser transformer par la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Comment on va se laisser transformer ce matin par la présence de Jésus-Christ. Comment faire? Quand Paul parle aux Romains 8 que toute la création souffre des douleurs de l'enfantement, elle enfante quoi la création ? Dans la douleur. Cet enfantement dont il parle, c'est celui du corps de Christ, c'est celui de l'Église, c'est celui que nous formons. Jésus lui-même a très souvent employé l'expression « fils de l'homme » pour annoncer la victoire définitive de l'humanité tout entière. Il est le fils de l'homme, il est l'Adam, le nouvel Adam, c'est lui. Et c'est en lui que nous avons la nouvelle naissance. C'est parce qu'on est né de lui, on est né de nouveau en Jésus-Christ. On meurt et on ressuscite avec Jésus-Christ. C'est bien ça le baptême, pour annoncer une victoire définitive de l'humanité tout entière rassemblée en un seul homme, Jésus-Christ, dont il est la tête. Et si je prends au sérieux cette phrase « Personne ne va vers le Père sans passer par moi » et que j'y entends la solidarité de toute l'humanité en Jésus-Christ, alors il faut dire aussi réciproquement, le Christ ne va pas vers le Père sans nous. Et c'est ça qui inquiétait les disciples. Quand Jésus dit « je m'en vais vous préparer une place avec moi. Là où je suis, vous y serez vous aussi. C'est pas demain, c'est maintenant. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. » Paul le dit encore autrement, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et Jésus termine par une promesse solennelle, « Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi » au verset 12. Après tout ce qu'il vient de dire sur lui, le mot « œuvre » ne veut pas dire « miracle ». Dans tout l'Ancien Testament, le mot « œuvre », quand il parle de Dieu, cela veut dire que désormais les disciples sont associés à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, à l'œuvre rédemptrice de Dieu pour l'humanité. C'est ça la folie de l'Évangile. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, mais Christ qui vit en moi. Et on est les imitateurs de Paul comme il est l'imitateur de Christ. Alors, parfois, il y a tellement de ténèbres qui nous entourent. On se dit, mais comment l'humanité, elle devrait être renouvelée? Comment moi, je vais faire, moi, avec ma petite humanité à moi, mon être renouvelé pour manifester Jésus-Christ? Et j'ai oublié de prendre ce que j'avais prévu. Une flamme. Si j'allume une bougie dans cette pièce, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, elle va être très fade, cette lueur de bougie, par rapport à la lumière du jour. Et c'est vrai que notre vie face à la vie de Jésus-Christ, c'est très pâle. Mais dans les ténèbres, qu'est-ce que ça fait, une bougie? C'est le seul point de lumière que l'humanité peut avoir, cette lumière qui luit dans les ténèbres. Ça, c'est la lumière de Jésus-Christ que nous sommes. Et une lumière, une bougie, ne luit jamais aussi fort que quand elle brille dans les ténèbres. Pourtant, c'est la même intensité. Mais c'est les ténèbres, comme sont, quand elles sont très grandes autour, eh bien, la bougie prend toute son importance. Et c'est ça toute l'importance de notre vie. Si vous vous sentez comme une petite flamme ce matin, sachez que cette petite flamme, elle a fait son œuvre dans les grandes ténèbres qui peuvent vous entourer votre existence. Ça peut être dans votre famille, ça peut être dans les difficultés que vous traversez dans l'existence, et vous dites, ma foi, elle est petite comme ça, mais cette bougie-là, les gens la voient. Les gens qui sont dans les ténèbres peuvent la remarquer. Et cette bougie-là, elle brille fort. Ça, c'est la vie de Jésus-Christ qui est en nous. Laisse briller le Seigneur dans ta vie en laissant son amour s'exprimer. Nourris par son exemple que tu méditeras tous les jours dans la parole de Dieu et par la communion d'esprit dans une prière continuelle, n'est-ce pas ? Une prière continuelle. Oh, je suis loin de ça, Seigneur. Quand l'Esprit Saint vient sur ses disciples, tout devient possible.